utilisé au début pour le contexte historique, la notion d'encaissement. Est-ce que ça vous dit de revenir un petit instant là-dessus? Parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi précisément ce que ça implique.
Voilà. L'encaissement. Oui, alors au fait, là je suis passé vite dessus, j'ai pas mis la référence, mais ça se réfère en fait à un travail de Johan Stavo de Bourges, qui a écrit deux articles où il développe le concept. Et puis c'est vraiment. L'idée c'est comme l'encaissement est intéressant parce que c'est le coup qu'on encaisse, hein, mais donc c'est une capacité à absorber un choc, hein, un regard, tout d'un coup la forme disruptive, comment tout d'un coup ce choc est absorbé. L'encaissement, c'est aussi qu'on met en caisse, hein, c'est-à-dire qu'on a bien vu tout le travail en fait, de formatage, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est que pour faire une politique culturelle, de toute manière, il y a un travail fondamental, la culture est déjà un formatage, un encaissement de l'art, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est une forme où l'art peut déjà être dans un discours qui peut être reconnu, qui peut être valorisé, qui peut être collectionné, qui peut être mis en politique. Hein, et donc du coup, c'est presque une relance, hein, de cette question de la politique culturelle face à la contre-culture. Et on l'a vu, petit à petit, elle a trouvé ses notions, ses lieux, ses formes, et puis elle va être soumise à cet encaissement par les formes de capitalisme contemporain, dans la production de la valeur, dans les formes de mise en garantie de la ville, et qui tout d'un coup, l'objet va devenir banalisé, ordinaire, valorisable même dans des politiques touristiques et économiques.
Merci. Et si je me permets une deuxième question justement par rapport à cette notion de politique et d'action politique, est-ce que d'une certaine façon ce paradoxe dans le fait de pouvoir contrôler la culture et la transformer en culture alternative, si je bien suis de votre réflexion, est-ce qu'on peut voir une solution à ce conflit ou est-ce que finalement toute action politique va dénaturer d'une certaine façon ces actions?
Ouais, c'est effectivement une question importante. Donc là, l'idée c'est qu'il y avait déjà un premier encaissement dans la culture alternative, mais qui est fondé sur une histoire jusqu'au 2008 qui est plutôt agonistique, dans le sens où il y a des occupations, des évacuations, des négociations, des mobilisations, et il y a un rapport comme ça qui est très tendu. Et ce qui se passe, c'est qu'après 2008, ça, par le durcissement, par le fait qu'on a délégitimé aussi certaines histoires, par le fait qu'il y a eu reconnaissance institutionnelle de la plupart des formes disruptives, hein, des rentrées au musée, on a du coup le pouvoir social de la culture s'estompe, la culture alternative devient une sorte de notion un peu patrimoniale. Et puis, voire même, devient culture émergente. La culture émergente, c'est un problème parce que c'est toujours les dire, bon, il y a des jeux qui émergent, mais en fait, non, parce que la culture émergente et la culture, c'est-à-dire que c'est des formes qui durablement posent problème. Et du coup, c'est quelles sont les formes qui posent problème aujourd'hui, comment on retrouve des marges de manœuvre. Et donc, bien entendu, il y a des formes de résistance qui se relancent. Sauf que, voilà, l'ennemi, entre guillemets, le lieu d'encaissement, c'est pas les formes répressives et le capitalisme d'État des années 70, mais c'est des gouvernements qui, bienveillants, ont des politiques, ils disent la culture alternative c'est génial et tout, mais qui, au bout du compte, sont pris dans des systèmes problématiques parce qu'on est pénétré par certains langages, par certaines formes d'asphyxie. Et c'est là qu'il faut travailler à faire ces descriptions-là pour comprendre par où ça dépolitise, et puis après, effectivement, relancer la politisation par des formes artistiques spécifiques, par des formes institutionnelles spécifiques, par des formes politiques d'action. Mais ça, c'est à nous de raconter, quoi. À nous, de raconter, c'est pas tout à fait.
Théodore,
est-ce que
vous avez
bonjour. J'aurais voulu revenir sur l'usine, qui est un endroit de militantisme, anti-étatique, il y a encore jusqu'à 2015-2016, on pouvait fumer de l'herbe en toute tranquillité, etc. Donc transgresser les règles, les lois, etc. Vous avez utilisé le terme autogéré. En fait, j'aurais voulu savoir comment tout ça bah, pouvait s'articuler avec le fait que l'usine soit subventionnée par la loterie romande et donc par, par la ville de Genève.
Alors, d'une certaine manière, ça vaut la question avec le débat sur la subvention, hein, c'est un vieux débat, je disais encore récemment, des comptes rendus de Réunion de 1905, sur les coopératives qui avaient peur d'être subventionnées par l'État, parce qu'ils constataient leur radicalité. Et moi, je le vois un peu différemment, en fait. C'est d'une certaine manière, dans la situation actuelle particulière, hein, et nous, avec les coopératives ressources humaines, on a aussi recours maintenant à des subventions, mais il y a aussi des choses comme les serres à Beaulieu, artichauts qui sont subventionnés. Et au fait, la subvention, c'est aussi la manière dont on réinjecte par la force publique de l'argent dans une économie monétaire. Et c'est-à-dire que la subvention va être condition de possibilité d'existence du lieu. Et après, tout l'enjeu, c'est la marge de manœuvre par rapport à la subvention. C'est-à-dire que l'usine a été subventionnée, et en partie sa subvention, elle vient aussi massivement du fait qu'on leur prête un lieu. Ça, c'est quand même important, parce que c'est comptabilisé comme subvention, plusieurs subventions, mais c'est simplement la question du lieu. Et ils ont continué à être autogérés, ils ont continué à être source, même dans les contrats de confiance, d'ailleurs, avant le squat, il y avait toujours relance de la possibilité de relance de la contestation. Après, quand ça commence, la subvention commence à dire vous êtes subventionné, vous devez faire 5 signatures, vous devez vous organiser comme ça. C'est là où, c'est pour ça que je parlais des conventions de subventionnement à Paris, hein, qui sont très, très rigides, pour créer des espaces qui sont sympas hein, quand on y va. Hein. C'est pour ça que nous, on a préféré la coopérative. Et parce que la coopérative, on a nos saules, par exemple, et on a le cylindre dedans. Mais en fait, il n'y a personne. On touche une subvention maintenant, la Fondation pour la culture et l'argent, la fameuse. Et nous, on veut pérenniser, hein, pour l'instant c'est temporaire, on a accepté hein, comme stratégie du moment. Et bien, on n'a personne qui nous dit, voilà, vous avez tant de réunions à faire, vous devez avoir que des personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça pose des problèmes pour la fondation qui nous subventionne. Est-ce que s'il y a trop de gens qui sont partis dedans, bien entendu, mais ce qui nous intéressait, c'est d'avoir les coups des franches et de pouvoir mettre dans un même bâtiment des gars qui vont à la ville, des réfugiés américains, des personnes qui font des massages, des petits artisans, des jeunes artistes issus de la aide. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Quoi. Et voilà, et donc, du coup, la subvention n'est pas un débat en soi directement. Alors nous, on aimerait bien être plus suffisant à terme. Mais en fait, on voit bien que dans les forces actuelles du marché, c'est très très dur. C'est très très dur. Et donc, du coup, la deuxième étape, c'est l'État. C'est pour ça que quand la Fondation pour la culture émergente touche que de l'argent de la Fondation Wilsdorf, ça pose un problème. Alors qu'à Amsterdam, depuis 15 ans, ils ont des breeding places, où la ville d'Amsterdam a mis 40 millions sur 15 ans pour produire des espaces d'artistes bon marché. Ils ont dû faire, hein. D'ailleurs, à Londres, maintenant, ils ont des espaces non spéculatifs, au centre de Londres, pour maintenir des artistes. Ils s'aperçoivent que finalement, l'activité peu rentable aussi, et le surcroît critique et expérimental, peine à prendre place.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Alors, bonjour, moi je fais partie du collectif de La Reliure et CENC. Et ça fait 6 ans qu'on propose de la culture gratuitement à Genève. On est autosuffisant, sauf pendant les festivals où on demande des subventions, mais c'est des subventions qui s'élèvent jamais au-dessus de 5 000 francs. Et voilà. Et en ce moment, la ville est en train de nous demander des autorisations à chaque fois qu'on organise un concert ou une manifestation ou une exposition, même des résidences. On doit payer 60 francs pour chaque autorisation. Ils essayent de nous pousser en fait vers la sortie. On imagine qu'au mois de juin, ça va être fini, donc on cherche à être logé. Mais il y a quand même, avec la ville, c'est très difficile d'avoir sa place, en fait, parce qu'on a organisé énormément de concerts, de manifestations, de résidences, et le tout voilà, en prenant la gratuité à chaque fois. Et en retour, il n'y a jamais vraiment en fait, une espèce de reconnaissance. C'est ça c'est assez difficile à comprendre pourquoi, alors que d'autres formes d'art sont beaucoup plus valorisées. Et, voilà.
C'est difficile. D'abord, juste un mot sur la reliure. C'est intéressant parce que quand vous rentrez à la reliure, et souvent dans différents festivals, performances et tout, il y a un sentiment d'inspiration. Et ça, c'est vraiment une expérience. Hein, je pense que c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais le passage de la politique à la cosmétique dans l'esthétique, hein, ça change quand même le sentiment. Tout de suite, on rentre dans un lieu qui est cadré monétairement, qui est cadré aussi dans les rôles. Hein, c'est un lieu qui conserve ce qu'on expérimentait beaucoup dans les squats, hein, une sorte de floutage, et d'emblée un sentiment d'émancipation. Voilà, donc ça, je pense que c'est une réussite, bravo pour ça. Et vous avez bénéficié, un truc génial quand même par la ville, hein, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'ailleurs à la base de Rome, vous avez bénéficié de la mise à disposition gratuite.
C'était à la base un endroit de stockage.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis du coup, ce qui était bien, hein, la vie à la poubelle à l'état était beaucoup plus dure. Et puis on voit en fait ces dernières 10 ans, les dernières 5 ans, on voit que la ville se fait rattraper comme l'État. C'était déjà plutôt comme ça, l'État se fait rattraper par le fait qu'ils ont dû durcir les réquisites des subventions, ils ont durci les normes de comptabilité pour des raisons effectivement de politique fédérale. Et donc du coup, en fait, automatiquement, ça vient durcir, et ça vient durcir justement dans les lieux qui n'ont pas la pleine reconnaissance dans ces politiques de vie créative. Là, le théâtre, ça ne touche pas de toute façon, c'est parce qu'on peut aller. Mais après, il y a le truc de danse international, il y a la résidence d'artiste, il y a tout un ensemble de cases. C'est bien, dans les trucs, quand la terrasse du Troc commence à faire des choses, ils sont balancés entre le service de la culture, le service social, on ne sait pas qui doit être subventionné, on ne sait pas où s'arrête. D'ailleurs, je pense qu'on peut retrouver d'ailleurs le socioculturel qui est devenu une insulte maintenant, et je le comprends aussi, mais en fait, dans les floutages entre le social et la culture et la vie, hein, il y a quelque chose de puissamment fort. C'est juste que maintenant, c'est devenu des petites animations. Soit vous devenez un truc d'animation, et puis c'est le département social qui va vous donner de l'argent, de la commission sociale, vous ne savez quoi. Et du coup, voilà, vous êtes vraiment dans ce moment d'asphyxie, où les derniers reliquats de ces espaces un petit peu libertaires sont poussés.
Avec une question, j'aimerais revenir sur le lieu de Artemis, donc qui n'existe plus comme il était pendant une bonne période. Et est-ce que vous pourriez dire un peu quelque chose sur ce qui est devenu ce lieu, ce qui se passe aujourd'hui là-bas? Je sais qu'on sort là un peu du cadre de votre projet, mais je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec tel lieu? Est-ce qu'il reste un rapport à son utilisation auparavant? Est-ce que ça change complètement? Dans quel système, disons, d'économie, ça
rentre
après.
Voilà. Alors là, c'est très intéressant en fait, de suivre un tout petit peu ça, parce que quand les contre-cultures deviennent cultures alternatives, des effets aussi, et puis derrière ça, il y a aussi ce qu'on appelait la nouvelle gauche, les politiques culturelles deviennent des politiques urbaines. Puis elles rejoignent la question du droit à la ville, elles rejoignent la question du logement, la question. Par la suite, ça va de nouveau être un peu séparé. Hein, et les artistes vont cesser de soutenir les mobilisations pour le logement. Puis on retrouve un peu ces dernières années ce rassemblement, hein, des combats, dans les tentatives voit la ville. Mais si je dis ça, c'est parce que un des héritages des luttes urbaines, ça va être effectivement les coopératives avec leurs espaces collectifs, hein, sous une forme souvent bien établie, bien juridique, qui fonctionne avec les marchés, mais qui bénéficie quand même, qui produit des espaces de meilleur marché. Donc on a des coopératives à Artemis. Et avec du coup l'idée d'offrir des espaces collectifs. Il y a des salles communes, il y avait aussi des arcades qui pouvaient être pour la culture, c'est aussi lié à des demandes. Mais les coopératives, quand c'est la CODA, parce qu'après il y a aussi les coopératives de promoteurs, c'est beaucoup moins efficace. Voilà, on est dans l'idée éco-quartier. Et puis éco-quartier, c'est cette traduction qui est un peu apolitique et non subversive de cette volonté de changer la ville pour changer la vie. Donc on est dans la tradition actuelle. Mais ça a ouvert des possibles, c'est pas inintéressant. Et en particulier les coopératives sont moins chères, les espaces collectifs, donc à peu près tout un ensemble de choses. Mais ce qui est intéressant par rapport à notre démonstration, c'est que j'avais évoqué des chiffres, on dit maintenant, voilà, on va aller jusqu'à 80, 100 francs le mètre carré, éventuellement jusqu'à 150 francs le mètre carré par année pour un atelier, ça fait 200, 300 francs, 200 francs pour un mètre carré, et par mois, mais à Artemis, donc à Carré Vert, c'est le nouveau projet, les arcades culturelles, elles vont coûter 280 francs le mètre carré. Et donc on voit bien qu'on est largement au-delà de ce qui est possible et soutenable pour y nicher, ne serait-ce que déjà les mondes de l'art, ce qu'ils ont plus reconnu, et puis on voit possible d'y nicher cette dark matter, ces mondes qui sont aux frontières. Et donc du coup on voit bien qu'on est soit on va avoir encore plus de subventionnement, soit il faut autre chose. Quoi. Et donc c'est là comme ça qu'on voit comment...
Il est imposé par la CODA.
Il n'est pas imposé, il est imposé. C'est le prix que ça coûte de le produire.
Ouais.
Parce que la CODA, c'est du loyer coûtant, c'est-à-dire qu'elle reporte les coûts. C'est des arcades à ombre, par exemple, qui sont à 4 mètres de hauteur. Donc ça, c'est imposé par la ville, donc ça coûte plus cher à produire du volume. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que nous, avec la coopérative, on lutte maintenant pour pérenniser des lieux, des usines, mais ça pourrait être des bâtiments vides, comme on l'avait fait à l'époque pour les squats. On dit, si on les détruit ou reconstruit, ça va être trop cher. Quoi. Donc c'est pour ça que la question du pérenne, de la pérennisation, devient une question politique et une question aussi subversive.
J'ai une question, Lucas. Je reviens à ta présentation qui est... C'est un peu comme un processus un peu de galvaudage. Il y a les années 60 qui sont un peu comme un moment idéal, comme ça, presque paradisiaque, la contre-culture, puis après ça passe à la culture alternative, et ensuite la situation d'aujourd'hui. Mais ce qui me frappe, c'est que pour la situation d'aujourd'hui, tu nous as quand même décrit assez finement, notamment avec le tableau où on voit les logements hors marché. Et enfin, donc tu nous as décrit quand même, tu nous as donné des éléments pour qu'on perçoive bien l'intrication quand même de ces phénomènes culturels avec l'économie. Donc il y avait une situation économique favorable quand même pour l'occupation, pour avoir des espaces. Et bon, alors moi ma question, je n'ai pas du tout étudié là-dessus, c'est une question je lance comme ça pour les... pour les historiens de l'art, peut-être d'ailleurs que ça a été fait aussi pour les années 60, de reprendre, parce que c'est un peu une vision un peu idéalisée, mythique, puis il faudrait revoir un petit peu quels sont les liens aussi avec des facteurs économiques favorables, ça s'est fait comme ça. Ouais, j'ai juste en tête, parce que je travaille là-dessus, j'ai juste en tête Seul Louis, dont le travail au moment où il a commencé à faire... des dessins au mur, le célibat, il a tout de suite mis du côté de justement pas l'encaissement, c'est pas une forme marchande, on va pas pouvoir le vendre, etc. Lui, il dit, c'est pas du tout ça qui l'intéressait à la base. Hein. À la base, c'était un caractère éphémère, le fait qu'on ait une instruction, qu'on puisse jouer, enfin jouer la pianiste, ce modèle de la musique, enfin bon. Donc il y a aussi une réception selon certains, dans certains formats, la réception ici par le CEPA, et c'est pas du tout ce qui se passe pour Sol Louis et pour d'autres artistes. Même Capo, hein, je pense qu'il y a là encore toute une réflexion sur l'histoire de l'art, sur la génération précédente. Donc voilà, c'est d'avoir cette même complexité, en fait, c'était ma question, d'avoir cette même complexité quand on regarde les années 60 que pour la situation actuelle, hein, puisque je pense que pour la situation actuelle, tu nous as montré que c'est pas simple, hein, c'est intriqué, et puis on ne peut pas rêver comme ça d'un lieu, et je pense que ça reste juste aussi pour les années 60, on ne peut pas rêver d'un lieu vraiment à l'extérieur des facteurs économiques, surtout. Je pense déjà qu'on parlait de culture, tu cites du Buffet à un moment donné, et donc déjà, passer de art à culture, c'est déjà, c'est ce que tu viens de dire.
Ouais, c'était ma réponse, donc la culture, déjà l'encaissement de l'art,
oui,
elle est une forme... un discours public sur la où les objets sont reconnaissables, peuvent être collectionnés, peuvent être mis au musée, peuvent être vendus, on peut en faire un marché, on peut en faire une politique. Donc c'est tout à fait juste. Hein. Et donc des moments qu'il y a politique culturelle, travail fin commence, et avec ce travail aussi de mise à l'écart de ce qui est le plus disruptif aussi commence. Et c'est vrai que c'était un truc qu'on soulevait aussi avec Michel qui est au fond. J'en discutais soit avec une curatrice qui s'appelle Madeleine Hamzer, sur la lumière, aussi les imagines et tout, sur très tôt, la mise en collection de l'avenir, la possibilité de la trace commence. Hein. Du coup, la question de du moment de ligne de fuite, véritablement. Donc j'ai forcé le trait, parce que pour moi ce qui m'intéressait c'était le potentiel disruptif, mais très rapidement le potentiel disruptif est atténué. Est atténué parce qu'en fait c'est intenable. D'ailleurs, on a suivi aussi un artiste à Genève qui est dans un période soit était dans un collectif d'art, mais qui a vraiment joué la carte justement de l'anonymat, de l'anonymat collectif, mais qui du coup quasiment au prix de sa propre carrière. Quoi. Et donc voilà. C'est des questions que vous connaissez très bien, et tu as tout à fait raison, je pense que là, il faudrait s'y maîtriser beaucoup plus de récits. Alors, sur la question des conditions spatiales, ça on a quand même pas mal travaillé. J'avais travaillé avec les squats, et puis et toute une histoire, justement, c'est toute l'histoire par exemple, de l'occupation de la maison des jeunes de Saint-Gervais. Parce qu'au fait, il y a une maison des jeunes de la culture à Saint-Gervais, hein, peut-être Saint-Gervais, qui va être occupée en fait en 71 et elle commence en 65 suite à un des premiers projets en 55 où on veut faire une maison de la culture mais qui est plutôt sur voilà, les jeunes, hein, c'est vraiment on invente aussi l'adolescence, le jeune adulte qui dit voilà, entre le moment du travail et puis la maison, mais il n'y a que les tavernes pour sortir, donc ils ont nulle part où aller. Hein, puis il y a, en France, il y a une maison des jeunes à la culture, mais qui ont un projet déjà politisé, hein, qui était plus allié sur l'autonomisation des jeunes. À Genève, en 65, on ouvre la maison des jeunes de la culture à Saint-Gervais. C'est plutôt un projet un peu paternaliste, on va trouver un lieu, ils vont bricoler, ils vont regarder des films. Puis très rapidement, ils vont commencer à s'emparer de ce premier espace et le travail de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir. Il y a les tréteaux libres, donc les groupes de théâtre qui sont influencés par le Living Theater qui commence, il y a comment ça s'appelle le metteur en scène, qui sera ensuite à Carouge, avec Rochelle. Et puis jusqu'au point où ils vont occuper la maison 71. En même moment, ils sont en train de chercher des espaces parce qu'il n'y a pas autant d'espace, il n'y a pas d'espace justement, il n'y a pas ces espaces qui vont être ensuite la MR, qui vont être ensuite la salle patinoire avant, où il y aura des festivals d'art contemporain, la bâtie qui vont ensuite rentrer dans la ville. Et donc du coup, il y a un travail à l'intérieur même des quelques lieux où les jeunes peuvent commencer à écouter du jazz, peuvent commencer à écouter du rock. Et donc ils l'occupent pour revendiquer en fait que ça devrait être un vrai lieu, on peut montrer Brecht. On ne peut pas montrer Brecht, et puis du coup ils vont montrer Brecht. Et puis, ils vont montrer une pièce au sénateur portugais qui critique le Portugal, la dictature, une pièce qui est subventionnée. Et puis déjà, à l'époque, il y a des gars qui vont dire, en particulier des partis de droite, ils disent, ouais, comment on montre des trucs qui critiquent le Portugal, et c'est subventionné, ça cache l'image. Donc on voit déjà se nouer toi, toutes ces questions autour du subventionnement, de l'accès par l'occupation, de l'accès par la mise à disposition. En fait, ça travaille dès la fin des années 60. Quoi. Mais c'est sur un arrière-plan d'une toute autre politique urbaine, en fait. C'est ça aussi que j'avais à l'arrière-plan. Il faudrait développer, j'avais pas le temps de développer, en fait, ces métriques pour cette politique. Ouais. Mais sur la question de l'histoire de l'art, je pense que là, ça demande encore à être
fini. Ouais, il y a pas mal de choses. Quoi. On sait, en 1961, William Seth, au MoMA, il y a des artistes qui sont déjà totalement dégoûtés parce que leur projet très subversif a été exclu du musée. Ça, c'est 61.
Ouais, c'est pour ça que je dirais qu'il fallait remonter pour cette histoire-là, au moins au début du siècle.
Ah oui.
La fin du 19e, quoi. Enfin, début du 20e, mais la fin du 19e.
Ouais. Baptiste Winkler.
Bonjour, merci pour toutes ces informations sur vos recherches. Alors moi j'ai une question un peu vague, c'est plutôt une réflexion que je me suis fait pendant que vous parliez. J'ai remarqué que vous avez plusieurs fois utilisé la notion de respiration, d'asphyxie et aussi d'encaissement, comme vous avez parlé au début. Et ça m'a fait penser en fait à notre rapport à notre corps. Et donc je me demandais en fait en quoi notre rapport à notre corps nous permet de créer un lien avec l'espace qui nous entoure, et en quoi, en fait, aujourd'hui on se situe, j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, après j'ai l'impression que quand on utilise certaines notions comme asphyxie et tout ça, j'ai l'impression que ça connote légèrement une position de victime, de cette condition en fait où on est aujourd'hui de vivre dans l'asphyxie de la ville de Genève. Et donc je me demande comment aujourd'hui on peut non pas être dépendant et victime de l'espace qui nous entoure, mais inverser d'une certaine manière les rôles et les forces pour nous réapproprier nos corps et ensuite nous réapproprier la ville et les espaces, et en fait, oui, qui serait ouais, d'inverser les rôles et de ne plus se positionner en tant que victime, et donc de ne plus être dépendant de la ville. Et j'ai déjà réfléchi un petit peu au fait de se réapproprier la rue, d'être dans la rue concrètement, et par la manifestation par exemple, ou par différentes choses, et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à nous dire sur cet espace qui n'est pas des espaces clos,
ouais,
qui est l'espace de la rue.
Non, c'est très juste, c'est très pertinent. J'évoquais, je vais faire une réponse en deux temps, mais j'évoquais la figure de les serres de Beaulieu. Les serres de Beaulieu, en réponse aux subventions. Et puis, en fait, là-bas, il y a des anarcho-communistes, si on peut dire comme ça, ils répondraient très certainement sur le label, mais qui ont accepté d'être labellisés Agenda 21, de toucher une subvention, mm-hmm. parce que ce qu'ils en rapportent, c'est créer un espace, un lieu. Mm-hmm. Un lieu de respiration, un lieu où finalement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi avec les coopératives, c'est créer d'un coup un espace où on respire notre propre rythme. Et c'est ce qui potentialise en plus notre travail sur la terre, le corps engagé et tout. Et ça, je pense que et cette forme-là, elle peut avoir lieu sous d'autres formes, sur l'occupation temporaire d'un espace public, demeure après la question du pèlerinage, pour revenir un peu dessus. Et ce que je voulais dire, c'est que on peut penser les formes, on peut articuler les formes spatiales et les formes politiques. Et si je dis ça, c'est que ce que j'appelais l'atterrissage de la contre-culture dans la culture alternative, hein, c'est aussi je l'ai montré, mais très brièvement, hein, on bascule dans les formes politiques. Mm-hmm. Et donc, c'est la production de situation chez les situationnistes. Et, mais qu'est-ce que ça veut dire, la production de situation? Qu'est-ce que ça veut dire une expérience? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu montrer des citations, on ne veut pas aller en main qui change, on veut simplement changer la situation ici et maintenant. Ben, ça, on rapproche de l'expérience. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu un retour assez massif à partir de là, de l'anarchisme.
Ouais.
Et des formes libertaires qui, d'ailleurs, dans les années 80-90, ont commencé à supplanter en partie dans les mouvements sociaux, les traditions marxistes et néo-marxistes. Et voilà, c'était une thèse de Bernstein, ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve les traces, et on avait été frappé quand on lisait, par exemple, à nos amis du comité invisible. Hein. Bon, Conta, Coupa, là, il a fait son mémoire, hein, son diplôme sur les situationnistes. Donc, ça ne tombe pas de nulle part. Mais ils disent, voilà, quelle est la signification, hein, si vous prenez le livre, de ces mouvements Occupy, MK, ils disent, c'est pas leur pouvoir révolutionnaire, à peine leur pouvoir insurrectionnel, mais c'est qu'ils potentialisent des rencontres. Et ils disent, et c'est là que réside, et là, c'est presque copier-coller de bord. Hein. Mais je ne dis pas ça pour. C'est toujours très intelligent, hein, ce qu'il raconte, mais c'est vraiment frappant. Il y a eu une histoire de la politique par l'expérience, et dont la rue devient effectivement un des modèles, hein, la rue comme concept aussi, comme lieu de la prise de pouvoir, comme lieu d'expérimentation, comme lieu de la cachette aussi, et donc, et tout autre. Que l'histoire, un droit à la vie qui passerait par des droits statutaires pour les prolétaires, ou qui passerait par un système de justice sociale, du logement social et tout, ou un système libéral qui passerait, lui, par des contrats, des lois négociées. Et donc, voilà, et donc cette question du corps, on l'hérite sur l'articulation à l'expérience avec son politique. Mettons, on parle d'ailleurs du mouvement expérientiel. Hein. Cette histoire de l'art en histoire de la contre-culture. Quoi. Mm-hmm. C'est ça un peu l'idée.
Merci pour votre réponse, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup que vous ayez commencé par me parler des serfs de Beaulieu. Ça m'a fait penser à Starhawk, la philosophe, et au fait que la réappropriation du corps, ça passe aussi par la réappropriation de la nature et de la terre, enfin de cet équilibre entre les choses, et pas forcément juste de la rue et du bitume. Et je trouve aussi très intéressant que vous parliez justement du faire et de l'expérience. Merci.
Alors nous avons encore deux questions. Après on va devoir s'arrêter. Charles.
Merci. Moi, je suis peut-être moins fataliste que vous parce que j'ai une vision d'historienne et en ayant étudié les histoires des avant-gardes, les histoires de contre-culturelles. La critique, elle vient toujours des marges et puis tout doucement, elle rentre vers l'intérieur et elle s'institutionnalise. Hein. Production de savoir, production de catégories, institutionnalisation, c'est pour moi qui la montre, c'est Foucault. Donc il y a cette espèce de boucle permanente. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt où se passe la critique aujourd'hui. J'ai pensé à un moment donné que ça se passait plutôt sur Internet, et pour moi, vraiment, les espaces de liberté qui ont été inventés à partir des années 90 et 2000, c'était sur Internet, et on voit bien quand même, là, maintenant, ces espaces-là sont beaucoup plus, dans une situation problématique aujourd'hui que cette institutionnalisation de l'esthétique friche qui, pour moi, finalement, est exactement la même chose que celle du skateboard, etc. C'est-à-dire, voilà, c'est des systèmes de cycles. Et puis, voilà, d'autres formes vont être montées ailleurs et vont connaître exactement la même destinée.
Alors, non, j'entends bien, et puis j'ai dit, moi, que je dessinais un portrait des fois pessimiste, parce qu'il y a une fonction politique à ça, en fait. Parce que je sens quand même une urgence à faire. Et puis on parle, je parlais à ceci parce que finalement, dans les années 70, on parlait d'ennui. Et puis voilà, donc, de toute façon, c'est la focale. J'entends cette question cyclique. Et en même temps, je serais peut-être un peu plus alors, du coup marxiste sur le coup, parce que la dialectique évolue. Et puis, je trouve que les formes du capitalisme actuel sont totalement différentes que les formes du capitalisme il y a 30 ans. Donc, les formes de résistance vont être différentes. Donc, le travail de critique de ces formes de régulation inouïes, ces formes de saturation inouïes aussi, hein, est important. Et donc, du coup, bien entendu, je l'espère, il y a déjà, hein, je le disais, il y a des relances à la fois des jeux, performance sur l'influence absurde de cette bureaucratique, il y a des formes d'occupation, il y a des formes d'institutionnalisation alternative. Mais en même temps, si c'était comme ça cyclique, il n'y aurait pas d'histoire d'une certaine manière. Et donc il y a une histoire et ces formes de résistance seront plus celles de l'avant-garde, elles seront plus confrontées, elles peut-être vont disparaître d'ailleurs, si disparaissent, ça va. Donc il y a des conditions de changement, je pense, qui sont inédites et un déplacement des formes de dialectique qu'on va pouvoir prendre en considération, quoi. Et donc du coup, j'ai l'impression que si on est trop sur une pensée cyclique, on voit mal ce qui se déplace, en fait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Notre dernière question.
Bonjour. Je suis étudiant ici. Et en fait, moi, ma question, c'était, est-ce que c'est pas une solution de ce truc d'illégalité, de clandestinité un petit peu? Enfin, c'est. Je dirais pour rester un peu insaisissable, justement, et pas rentrer un peu dans les comptes. De la ville de Genève, tous ces trucs, je me demandais un peu si c'est happening de collectifs qui se font justement restreindre par. Et que du coup la ville influe carrément sur le lieu où ça se produit. Est-ce que c'est pas. Ça aurait marché si c'était fait sans rien demander à personne et puis posé un petit peu par force et puis plutôt réfléchir à des moyens de rester justement insaisissable et pas se faire couper le. Le truc sous le pied, quoi.
Ouais, mais là, du coup, là, la capacité, parce que soit il y a la question de l'invisibilisation, c'est ça que vous appelez finalement le sujet.
Bah ouais, je pense que c'est un petit peu. Ouais, c'est l'invisibilité comme protection, un petit peu, ouais, je pense.
Je pense que c'est pas faux. Mais d'une certaine manière, une part de mes trop brèves éléments de réflexion que j'ai distillé là sur la pérennisation, c'est une manière aussi, ça se veut assez critique de ce qui s'est joué ces 20 dernières années, effectivement, qui étaient les politiques interstitielles. L'interstitiel, les épées, j'entendais encore dans l'autre jour là, sur les épistémologies furtives, sur tous ces trucs qui, vu en tout cas de ce qu'on a pu observer là, avec les camarades, sont profondément inopérants dans les conditions du capitalisme actuel. Parce que quelque part, possiblement, c'est très bien. Hein. Faut que ça reste interstitiel, faut que ça reste temporaire, faut que ça reste furtif. En plus, il y a des systèmes maintenant complexes de capter le temporaire, l'interstitiel, le furtif. Et puis, on le balaye assez facilement parce que, de toute manière, il n'y a pas de contre-pouvoir fort, il n'y a pas de discours. Hein. On parle d'opportunisme, c'est la première occupation qui, depuis des années, dure. Parce qu'il y a systématiquement répression, même si les commerciaux sont devenus vides, même si les logements vides remontent, on voit qu'on n'est plus du tout. Et donc, du coup, là, il y a. Au terme, en tout cas, alors, sur le plan politique de ces gestations culturelles, dans le sens large du terme, mais voilà, je pense qu'il faut d'autres formes. Et peut-être pas comme, je pense qu'effectivement, la révélation, on l'a vu avec la ZAD, on sort, on va ailleurs, mais après, à un moment donné, il y a une épreuve de force. Et pour l'instant, pouvoir laisser l'État être forte.
Okay. personne.
On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à vous pour vos questions et à Lucas pour cette présentation.